Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur VOA Afrique. Je suis Nani Talani. Il est 7h en temps universel. Voici les grands titres de ce journal. Une attaque terroriste tue 20 militaires et un civil au Niger. Kenya, le président William Ruto contre-attaque après des manifestations sanglantes et l'intrusion au Parlement. Déploiement historique en Haïti, les policiers kenyans débarquent à Port-au-Prince pour lutter contre les gangs. Retrait et clôture des opérations de la MONUSCO du Sud qui vont en RDC, Kinshasa obtient gain de cause. En sport, convocation par la Fédération malienne du capitaine des Aigles pour des explications et puis des nouvelles de l'Euro 2024. Dans notre partie magazine, nous ferons le point sur une initiative écologique au Togo qui réhabilite des terres endommagées par l'exploitation de phosphate. Nous ferons également le décryptage avec Henry Ridwell de la situation de Julian Assange en rapport avec la loi américaine sur l'espionnage. Des détails dans un instant. Tout d'abord, le journal. Au Niger, 20 militaires et un civil ont été tués hier lors d'une attaque perpétrée par des groupes armés terroristes dans l'ouest du pays. Un détachement des forces de défense et de sécurité en contrôle de zone a fait l'objet d'une attaque par une coalition de groupes armés terroristes aux abords du village de Tassia dans la zone de Tera, indique le ministère de la Défense. Plusieurs dizaines de terroristes ont été tués et des renforts aériens et terrestres sont actuellement déployés pour rechercher et détruire le reste des assaillants, indique également le communiqué en annonçant qu'un deuil national de 3 jours sera observé à partir d'aujourd'hui et sur toute l'étendue du territoire national. Les drapeaux seront mis en berne. Au Kenya, le président William Ruto s'est engagé hier à réprimer sévèrement la violence et l'anarchie après les nouvelles manifestations contre ses projets de taxes qui ont fait au moins 5 morts, selon des ONG, ainsi qu'une intrusion au Parlement à Nairobi. Les précisions d'Eric Manirakiza.
Des ONG, y compris Amnesty Kenya, ont rapporté un bilan d'au moins 5 morts et 31 blessés, ainsi que 21 enlèvements perpétrés par des officiers en uniforme ou en civil au cours des dernières 24 heures. Nous apporterons une réponse complète, efficace et rapide aux événements de trahison, a déclaré William Ruto lors d'un point de presse à Nairobi. Il n'est pas normal ni concevable que des criminels ne se faisant passer pour des manifestants pacifiques puissent faire régner la terreur et s'attendre à ne pas être inquiétés, a-t-il ajouté. Le gouvernement a déployé l'armée pour soutenir la police, a annoncé le ministre de la Défense, Aden Barré. Le mouvement Occupy Parliament, occupé le Parlement, s'oppose au projet de budget. Des manifestants ont envahi le Parlement où les députés venaient d'approuver des amendements au texte qui doit être voté d'ici le 30 juin. Ces manifestations ont commencé peu après la présentation au Parlement le 13 juin du projet de budget qui prévoit une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers.
Après des mois d'attente, un premier contingent de policiers kenyans est arrivé hier à Port-au-Prince dans le cadre d'une mission internationale visant à rétablir la sécurité en Haïti, pays ravagé par la violence des gangs. Le point avec Dili Diko.
Un avion de la compagnie nationale Kenya Airways a atterri hier, peu avant 14h GMT, à l'aéroport de la capitale haïtienne, avec à son bord un premier contingent de 200 policiers. L'appareil avait quitté lundi soir Nairobi après une visite du président kenyan William Ruto aux policiers peu avant leur départ. Cette mission est l'une des plus urgentes, importantes et historiques de l'histoire de la solidarité mondiale, a déclaré le chef de l'État kényan lors d'une cérémonie à huis clos. Le Kenya a proposé d'envoyer 1 millier de policiers en Haïti pour la mission multinationale d'appui à la sécurité, prévue pour une durée initiale d'un an et à laquelle doivent également contribuer le Bénin, le Tchad, mais aussi le Bangladesh, les Bahamas et la Barbade. Le président américain se dit très reconnaissant envers tous les pays ayant promis leur soutien sous forme de personnel et de moyens financiers à cette mission et rappelle que les États-Unis, à défaut d'envoyer des policiers ou des militaires, en sont le premier contributeur, avec plus de 300 millions de dollars en fonds et jusqu'à 60 millions de dollars en matériel.
La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a fermé hier son bureau de Bukavu, quartier général de ses opérations dans le sud Kivu depuis plus de 20 ans. Ce retrait de la MONUSCO a été réclamé par Kinshasa qui la juge inefficace. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La MONUSCO a transféré aux autorités nationales ou fermé 7 bases au site du Sud Kivu et 15 autres installations, a précisé la mission onusienne dans un communiqué. Il reste 3 bases, Mikenge, Minembwe et Uvira, qui, bien qu'ayant cessé leurs opérations, selon la MONUSCO, doivent être transférées à l'armée congolaise dans les prochaines semaines. La MONUSCO avait annoncé la fin de ses opérations au Sud Kivu le 30 avril, ne laissant dans la province, disait-elle, que les effectifs nécessaires pour assurer la sécurité de ces installations jusqu'à la fin de son retrait. Acté en décembre dernier par le Conseil de sécurité, le désengagement total de la MONUSCO a été prévu en 3 phases, la première concernant le Sud Kivu. Aucune date n'a encore été avancée pour le Nord Kivu et l'Ituri, les 2 provinces les plus troublées de l'Est congolais. Avant le lancement de son désengagement, la MONUSCO comptait environ 15 000 casques bleus.
La famille d'un consultant belgo-portugais d'une ONG américaine, arrêté le mois dernier dans le sud-est de la Centrafrique et accusé de complot contre l'État, dénonce un piège et une injustice. Joseph Figuera Martin a été interpellé le 25 mai par des militaires à Zemio sur la frontière entre la RCA et la RDC. Dans un communiqué, sa famille tient à alerter l'opinion publique de la gravité du piège dans lequel il se trouve en exprimant sa profonde inquiétude face à l'évidence de cette injustice. Joseph Figuera Martin est toujours en garde à vue, a déclaré mardi le procureur de la République, Benoît Narcisse Foupio, en assurant que ses droits sont respectés, notamment la présence d'un avocat et la visite du consul portugais en Centrafrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Union européenne a officiellement lancé mardi à Luxembourg des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, une étape qualifiée d'historique tant à Kiev qu'à Bruxelles. L'Ukraine sera un membre de l'Union européenne et nous serons capables de tout achever avant 2030, a promis la vice-première ministre ukrainienne. Le premier ministre australien Anthony Albanese s'est dit ce mercredi très satisfait de l'accord de plaider coupable conclu par Julian Assange avec la justice américaine qui a mis fin à une saga judiciaire de près de 14 ans. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est effectivement sorti de prison au Royaume-Uni. Il devrait retrouver la liberté ce mercredi après avoir plaidé coupable devant un tribunal américain, les précisions de Mohamedou Oumfa.
Poursuivi pour avoir publié des centaines de milliers de documents confidentiels américains, l'informaticien australien âgé de 52 ans doit comparaître ce mercredi devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, territoire américain du Pacifique. Julian Assange sera un homme libre une fois l'accord validé par le juge, a déclaré mardi depuis l'Australie son épouse Stella. Comme l'indiquent les documents judiciaires, le fondateur de Wikileaks accepte de plaider coupable d'un chef d'accusation relatif à l'obtention et la divulgation d'informations sur la défense nationale, selon Stella Assange. Julian Assange est désormais poursuivi pour un seul chef d'accusation, complot pour obtenir et diffuser des informations relevant de la défense nationale, selon les documents qui citent également sa complice, la militaire américaine Chelsea Manning, à l'origine de cette fuite massive. Stella Assange, qui a 2 enfants avec le fondateur de Wikileaks, a lancé un appel aux dons pour payer les 520 000 dollars que son épouse doit rembourser au gouvernement australien pour l'affrètement de l'avion qui doit l'amener en Australie. Il n'a pas été autorisé à emprunter un vol commercial, a-t-elle indiqué sur X.
Le journaliste américain Evan Gershkovitch, détenu en Russie depuis 15 mois pour des accusations d'espionnage qu'il rejette, doit comparaître ce mercredi devant un tribunal d'Ekaterinbourg dans l'Oural pour le premier jour de son procès qui se tiendra à huis clos. Les enquêteurs accusent M. Gershkovitch d'avoir collecté des informations sensibles pour le compte de la CIA sur l'un des principaux fabricants d'armement du pays. le producteur de chair Oural Vagabond Zavod. Gershkovitch, 32 ans, reporter au Wall Street et qui a aussi travaillé pour l'AFP à Moscou de 2020 à 2022, a été interpellé en mars 2023 par les services de sécurité russes et accusé d'espionnage en Russie. Des robes de la princesse Diana aux enchères en Californie, la maison Julian Ochon présentera notamment à Beverly Hills deux robes estimées chacune entre 200 000 et 400 000 dollars. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons à présent à notre segment économique avec Jean-Roger Bion.
Les cartes SIM utilisées au Nigeria sont désormais produites dans le pays. Cette réalisation intervient un peu moins de 2 ans après que le gouvernement d'Abuja a interdit l'importation de cartes. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté des autorités nigérianes de promouvoir le contenu local et la participation indigène dans l'industrie des télécoms. Une usine de fabrication de cartes SIM a été ouverte à Lagos en juin 2022 avec une capacité de production de 200 millions de cartes par an. La République démocratique du Congo concentre 65% des nouvelles annonces de réserves de cuivre identifiées dans le monde en 2023, selon un rapport de S&P Global Market Intelligence, avec un repli de nouvelles identifications de réserves en Amérique latine et la demande croissante de cuivre, notamment pour la transition énergétique. La RDC tient une opportunité de devenir le premier fournisseur mondial de cuivre brut devant le Chili, qui domine encore sur ce segment. Les États-Unis ont imposé mardi des sanctions économiques à l'encontre d'un réseau bancaire parallèle lié au régime islamique d'Iran et destiné à contourner les sanctions et à fournir un accès au système bancaire international. Washington indique que l'équivalent de milliards de dollars ont transité par ce réseau depuis 2020 et souligne que la vente de pétrole et de produits pétrochimiques sont notamment des sources de revenus pour le régime.
Merci Jean-Roger Bion pour ces informations économiques. Place maintenant aux nouvelles sportives présentées par Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
La Fédération malienne de football convoque son capitaine.
Oui, le capitaine des Aigles, Amari Traoré, est convoqué d'urgence par sa fédération pour donner des explications à propos de ses sorties sur les réseaux sociaux concernant la gestion du football au Mali. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
Il nous revient avec insistance que vous faites des publications sur les réseaux sociaux par rapport à la vie interne de l'équipe nationale du Mali, malgré notre communiqué de mise en garde. Par conséquent, nous vous invitons à vous présenter devant le comité exécutif sous 48 heures. Telle est l'essence de la demande d'explication adressée à Hamari Traoré en date d'hier lundi 24 juin 2024. Hamari Traoré répondra-t-il oui ou non à la convocation de la fédération ? On ne saurait répondre pour l'instant. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis un certain temps, il y a un véritable malaise au sein de l'équipe nationale senior du Mali. Plus proche de nous, au compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre Madagascar, le 11 juin dernier en Afrique du Sud, les joueurs maliens sont arrivés seulement quelques heures avant le démarrage du match. Le score, pour rappel, est nul vierge de 0-0. 2 jours après, soit le 13 juin dernier, le sélectionneur Eric Sekouchel est limogé. Une décision qui fera des mécontents parmi les joueurs, selon certaines sources. Et depuis quelques jours, le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers ont indiqué sur les réseaux sociaux que si la situation de mauvaise gouvernance reste inchangée, ils se réserveront le droit de ne pas honorer la sélection nationale et de ne pas participer au prochain match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
À présent, les nouvelles de l'Euro 2024.
Auteur d'une prestation moyenne face à la Pologne, 1-0, malgré le retour de Kylian Mbappé, l'équipe de France s'est compliqué la tâche pour la suite en terminant à la 2e place du groupe D derrière l'Autriche qui a battu les Pays-Bas 3-2. Les Néerlandais se qualifient comme l'un des 4 meilleurs 3e. Dans la poule C, l'Angleterre qualifiée avant le coup d'envoi n'est parvenue ni à convaincre ni à battre la Slovénie à Cologne, 0-0. Elle termine néanmoins à la 1ère place. Les Slovènes 3e du groupe se qualifient aussi pour les 8e de finale, une première meurtrière dans leur histoire. Dans l'autre match de ce groupe, au bout du suspense et grâce au classement fair play, le Danemark a arraché son ticket pour les huitièmes avec son match nul contre la Serbie, 0-0, prenant rendez-vous avec l'Allemagne samedi à Dortmund.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani toujours avec vous. Avant de terminer ce journal, voici nos segments magazine. D'abord, un reportage de Wani Johnson-Sombou sur la baisse des prix de certains produits de première nécessité entrés en vigueur au Sénégal lundi. Mais la mesure est pour l'instant très peu suivie sur le terrain. Elle était d'ailleurs au cœur d'un bras de fer entre l'État et les meuniers. Mais ces derniers ont finalement lâché du lest ce mardi. Voici donc la correspondance de Wani Johnson-Sombou.
Après avoir rejeté la nouvelle baisse des prix, les meuniers du Sénégal sont finalement revenus sur leur décision de suspendre la production de farine. Ils acceptent de se conformer aux nouveaux tarifs fixés par les nouvelles autorités en vigueur depuis lundi. Mais bien que très peu suivis par les commerçants, les Sénégalais se réjouissent de la mesure. Pour Maurice Thiao, enseignant, la baisse des prix des denrées de première nécessité arrive à point nommé.
La baisse est venue au bon moment, parce qu'en tant que même fonctionnaire de l'État, donc je trouve que c'est un soulagement en tant que parent de père de famille d'avoir ces baisses sur les denrées de première nécessité. C'est une bonne chose et nous demandons que le gouvernement puisse mieux faire, parce que la vie au Sénégal est très chère. Nous les invitons aussi à regarder de l'autre côté, c'est-à-dire le côté du logement, la location, parce qu'au Sénégal, il n'y a que ces deux aspects qui sont très, très, très pénibles pour les pères de famille. En tant que fonctionnaire, il est difficile de joindre les deux si on veut mettre la famille à l'aise.
Mais nombreux sont les Sénégalais qui jugent la baisse insignifiante par rapport à l'inflation des produits de base qui a atteint des taux records ces trois dernières années. 38,9% pour le riz ordinaire en détail et 62,2% pour le mil selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Tailleur de profession, Moustapha Faye ne cache pas sa déception. Pour dire vrai, je m'attendais à plus qu'une baisse de 25 ou 35 francs, mais je ne sais pas comment ils ont géré pour avoir cette diminution. Donc avec les efforts qu'ils ont faits, je peux espérer qu'ils vont faire plus, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Au-delà des attentes, la grande inquiétude des Sénégalais reste le respect des mesures par les commerçants. La baisse des prix des denrées était l'une des grandes promesses de campagne du président Bassirou Diomaye Faye. Et ce n'est que le début, annonce le camp du nouveau régime. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Togo, l'exploitation du phosphate dans le sud-est du pays a mis à mal l'environnement et la survie des populations. Des montagnes et des étangs artificiels générés par l'excavation des terres sont devenus des dangers permanents pour les riverains qui y laissent parfois leur vie. Certaines autorités locales ont décidé d'agir pour reverdir ces terres endommagées et redonner espoir aux agriculteurs. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Oussou.
Depuis les années 1950, le Togo exploite du phosphate dans les préfectures de Vaud et de Yoto au sud-est du pays, sans aucune mesure de protection de l'environnement. Ce sont des milliers d'hectares ravagés qui donnent un aspect lunaire à la zone. Yao Komi, du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.
Jusqu'à un passé récent, cette exploitation a été faite sans aucune mesure pour préserver l'environnement, sans aucun aménagement. Ce qui fait que après les exploitations, le paysage est laissé comme ça. La création des montagnes artificielles, des retenues d'eau artificielle, ça a fait que la couverture végétale a été mise à mal. Les terres cultivables ont été carrément endommagées.
Voici 3 ans déjà que le maire de la commune Vaud-3 s'échine, tant bien que mal, à travers un projet de reboisement, à aménager ces sites désaffectés et à y planter des arbres. Minon Blancodjo, maire de la commune de Vaud-3.
On avait travaillé dans un premier temps par rapport au remblai des carrières déjà exploitées. Mais ce n'était pas une réussite parce qu'ils estimaient que ça deviendrait plus cher par rapport à l'exploitation. Donc on n'avait pas eu gain de cause. On ne peut pas laisser ces carrières après mine comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de faire la couverture végétale par rapport à ces carrières-là.
Dès l'année 2022, grâce à un financement de 300 millions de francs CFA de la Banque mondiale, un essai d'aménagement et de reboisement a été initié sur 50 hectares dans la localité de Dagbati avec succès. Cela a permis de reprendre l'expérience une année plus tard avec un espace aménagé à reboiser de 135 hectares. Pour les localités de la zone de ces carrières désaffectées, le projet initié par le maire est à saluer. Togbe Zombleu Kodjo Kodosu Adjaro 3, chef du village de Agotekwe.
L'aménagement et le reboisement des carrières abandonnées et désaffectées sont un grand soulagement pour nous. Nos terres vont se reverdir dans quelques années pour nous permettre de reprendre nos activités agricoles d'antan.
La réussite du projet initié par la commune Vaud-3 a fait des émules. Yao Komi, du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.
Ce que nous avons fait dans la commune Vaud-3, ça a suscité l'envie chez d'autres maires aussi qui se sont approchés de nous. Je donne l'exemple de Vaud-4 qui a aussi des carrières sur son territoire. Donc nous avons prévu un certain nombre de superficies à reboiser là-bas aussi cette année pour restaurer ces carrières et redonner vie à ces terres qui sont actuellement sans vie.
Pour cette année 2024, il est prévu l'aménagement et le reboisement sur environ 150 hectares de ces carrières désaffectées. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a plaidé coupable ce mercredi d'avoir violé la loi américaine sur l'espionnage. Cet agrément avec la justice américaine va mettre fin à la détention du lanceur d'alerte en Grande-Bretagne et lui permettre de retourner dans son Australie natale, marquant la fin d'une longue bataille judiciaire. Pour en savoir plus, Jean-Roger Bion a joint à Londres Henry Ridgewell, le correspondant en langue anglaise de la Voix de l'Amérique en Europe occidentale.
Oui, je pense que l'affaire a été une casse-tête diplomatique pour l'administration de Joe Biden, qui a fait face à des pressions de la part de l'Australie, qui est un allié important de sécurité nationale. Également, Biden a subi la pression des défenseurs de la liberté de la presse, notamment des plusieurs journaux et des organisations de défense des droits humains. Peut-être il ne voulait pas que cette décision pèse sur lui pendant la campagne électorale américaine, surtout lorsqu'il tente d'obtenir les voix des citoyens américains de gauche.
Dans cette affaire Assange, il y avait comme un choix à faire entre la justice et les droits de l'homme, lequel des facteurs a prévalu?
Oui, peut-être je pense que si vous parlez à l'un ou l'autre camp, ils diront qu'aucune des deux n'a gagné cette bataille. Les partisans de Julian Assange affirment qu'il n'aurait jamais dû être imprisonné, qu'il effectuait un travail important en tant que journaliste dénonçant les violations des droits humains et que l'accord qu'il a conclu avec les États-Unis porte atteinte de la liberté de la presse. Ils veulent une grâce totale du président américain. Mais à l'autre camp, le ministère américain de la Justice n'a pas commenté sur l'accord, mais ils ont déclaré que Assange avait publié du matériel volé mettons en danger la vie des informateurs et portant atteinte à la sécurité des États-Unis. Ils ont initialement inculpé Assange de 18 chefs d'espionnage.
Au bout du compte, quel avenir pour les lanceurs d'alerte?
Oui, maintenant je viens de parler à Reporters sans frontières et à des experts en journalisme ici à Londres. Et ils sont convaincus que l'accord conclu entre les États-Unis et Assange porte atteinte à la liberté de la presse. Ils comprennent parfaitement pourquoi il a accepté cet accord. Il est en mauvaise santé et n'est pas libre depuis 13 ans. Mais ils affirment que Assange, acceptant un plaidoyer de culpabilité, crée un dangereux précédent pour la sécurité des journalistes. Il veut qu'il soit libéré sans condition.
C'était Henry Ridgewell, correspondant en langue anglaise de La Voix de l'Amérique, en Europe occidentale.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Termine cette session du monde aujourd'hui. présenté par Nanit Dalani à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot à la technique, Calvin Fowler. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Restez avec nous pour des reportages et des analyses approfondies tout au long de la journée. Pour plus de détails et de nouvelles en continu, visitez notre site web voaafrique.com et nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X. Passez une excellente journée. À bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.